Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel, à la radio ou en podcast. Ce matin, on se réveille avec la voix de crooner de Nat King Cole, 55 ans après sa mort. Ses chansons continuent à nous accompagner. Mais avant d'être le chanteur à la voix de velours, Nat King Cole a été une des figures emblématiques du jazz du XXe siècle et un pianiste d'exception avant de devenir un chanteur. Alors, un coffret 3 CD vient de sortir pour résumer la courte et très riche carrière de Nat King Cole, du solo au Big Band, d'une église d'Atlanta à Hollywood. Un coffret complètement réalisé par un amateur de jazz, Claude Carrière, mon invité ce matin.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. That someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
C'est la version originale, celle de 1951, Unforgettable Nat King Cole. Bonjour Claude Carrière.
Bonjour.
Incomparable. Comment on dit en anglais?
Puisque... Incomparable, le même mot.
Le même mot, ben voilà. Et c'est le titre de ce coffret donc que vous avez consacré. Je dis bien que vous avez consacré. C'est à partir de votre collection de disques de Nat King Cole que vous avez conçu, vous, le grand amateur de jazz.
À la maison.
Et vous avez tenu à ce que ce soit cette version-là d'Unforgettable qui figure dans le coffret.
Oui, parce que la plupart du temps, on entend la version qu'il a refaite en stéréophonie 10 ans plus tard, mais c'est exactement le même arrangement. Et on a refait beaucoup de ces grands tubes à l'occasion de la sortie de 33 tours, 30 centimètres, de Nat King Cole Story. toutes ces choses, ressortir en stéréo pour les gens qui commençaient à être un peu plus exigeants, point de vue de la haute fidélité.
Alors dans ce coffret, on retrouve bien sûr tous les tubes, comme vous dites, de Nat King Cole, Mona Lisa, enfin tout.
Quelques-uns.
Oui, mais ceux tubes qu'on connaît sont là, c'est-à-dire qu'on ne se perd pas. Mais ce qui est intéressant, Claude Carrière, c'est que dans ce coffret, vous rappelez qu'avant d'être le crooner qu'on connaît et qui continue à nous accompagner, il a été d'abord pianiste et il a beaucoup fait pour le jazz, pour des années 40.
On ignore trop qu'il a été un immense pianiste et qu'il a eu une énorme influence sur des gens, par exemple sur Oscar Peterson, dont le jeu est vraiment calqué sur celui de Nat King Cole, ou sur Ray Charles. Le premier trio de Ray Charles, c'est un trio piano, basse, guitare, comme celui de Nat King Cole. Et Ray Charles chante d'ailleurs un peu comme Ray Charles. Mais Nat King Cole, je veux dire, était d'abord pianiste et on l'aurait un jour ou l'autre forcé à chanter, un patron de club, pour faire plaisir à un client riche et un peu alcoolisé. Et là, on l'aurait un petit peu forcé à chanter, alors qu'il se sentait pas du tout prêt. On lui avait dit, mais t'as une voix lamentable, c'est pas possible, c'est toi avec tout ce que tu fumes. Et puis, en fin de compte, voilà, ça a plu et il a continué dans cette voie.
Alors, tout commence dans une église, quelque part, dans un état du sud des États-Unis, à Atlanta, pour être précis.
Oui, ben, son père est un prêtre, enfin... un révérend.
Oui, un révérend.
Et il vit ses premières aventures musicales entre l'église et la maison, entre l'orgue de l'église et le piano de la maison. Et le père, d'ailleurs, n'aime pas trop qu'il joue de la musique de jazz. C'est une musique un petit peu de péché. Mmh. Et puis il passe outre. Il apprend le piano d'une façon... Oui, alors à ce propos-là, il faut surtout insister sur le fait qu'il a dû énormément travailler le piano à partir de l'âge de 12 ans. Il a un très bon prof et il va jusqu'à Rachmaninoff. Et on sent d'ailleurs dans sa façon de jouer qu'il est absolument impeccable techniquement, qu'il a beaucoup travaillé. On a un peu trop tendance à propos des jazzmen géniaux et noir en général,
pour des
à penser que le petit Jésus leur a donné le don comme ça, alors que ce sont des gens qui ont beaucoup beaucoup travaillé dans des écoles très sérieuses, ou alors tout seul comme Errol Garner.
Mais en dehors de cette formation classique, est-ce que Nat King Cole est influencé déjà par les premiers musiciens de jazz?
Alors il est influencé par les grands musiciens de jazz de sa ville, de Chicago. Parce qu'entre-temps, toute la famille a déménagé.
Pour aller à Chicago.
Pour s'installer à Chicago, avec les frères, les sœurs, la maman et la tata. Et à Chicago, il y a en particulier Earl Hines, qu'on appelle Father, c'est-à-dire le père de tous les pianistes. C'est celui qui casse le jouet après le jeu très métronomique des pianistes de Harlem, vous savez, qui jouent le stride, une basse en accord. Et Earl Hines joue d'une façon beaucoup plus variée rythmiquement. Et c'est la grande inspiration de Nat King Cole. C'est-à-dire, l'histoire du piano, c'est Hines, puis King Cole, puis Peterson, Bud Powell, Bill Evans, Ahmad Jamal, etc. Mais il est un des chaînons indispensables.
Alors,
son maître Earl Hines.
Dans votre coffret, Claude Carrière, on a donc un CD du chanteur populaire, mais il y a aussi tout un disque consacré à cette période où il était en trio. Il y a même des enregistrements de Nat King Cole au piano, tout seul. Mais parlons d'abord de sa formation, de ce trio de Nat King Cole dans les années 40. Il va avoir sa propre formation, Nat King Cole, Claude Carrière.
Mais son premier orchestre qu'il dirige, après avoir très jeune dirigé même un grand orchestre à l'image de celui de Earl Hines, parce que certains des musiciens de Earl Hines lui donnent des partitions, son premier groupe avec lequel il va gagner de l'argent et va faire le métier, c'est avec juste une basse et une guitare. Il est l'un des tout premiers, pas tout à fait le premier, mais l'un des tout premiers à avoir un groupe de ce format piano, contrebasse, guitare. De temps en temps, dans les enregistrements, il y a une batterie. En plus, de temps en temps, il y a un soliste invité.
Voilà, par exemple, là, il va y avoir en solo un saxophoniste invité. Ce sont des compositions de Nat King Cole.
Non, pas toujours. Forcément, non.
Non,
non, non. Assez peu souvent, d'ailleurs. C'est pas vraiment un compositeur, non.
Qu'est-ce qu'il reprend, Nat King Cole, à cette période-là?
Il reprend tout ce qui est dans l'air, et puis on lui écrit des choses. Il y a de très belles histoires, d'ailleurs, sur certaines de ses chansons qui lui sont destinées.
Don't let it go to your head, ça veut dire quoi?
On va écouter ce morceau. Ne laisse pas ça te monter à la tête. Entre nous, je pense que les paroles des chansons sont pas tellement immortel en général dans ce genre de répertoire, enfin pas systématiquement. Non, c'est la parfaite conjonction entre la voix et la prononciation, l'articulation qui est absolument parfaite.
You bet she'll flirt, but don't let it go to your head. You might get hurt, so don't let it go to your head. She doesn't ask any questions, save all the answers. You found her at last, and now you're part of a session that's moving too fast. She'll hold your hand, but don't try to reach for the sky. You'll understand as soon as the evening rolls by. She wears my ring on her finger, she'll never linger. So brother, you're dead, and just like I said, don't let it go to your head.
En 1955, l'enregistrement est parfait. Il fait partie de ces morceaux que vous avez choisis pour illustrer, Claude Carrière, toute cette partie professionnelle de Nat King Cole quand il est dans des formations de jazz, plutôt un trio là, même s'il y a...
C'est son trio avec en plus une batterie et un invité.
Et alors cet invité, ce saxophoniste...
C'est Willie Smith, c'est un des grands saxophonistes alto de l'histoire du jazz dans les années 30-40, avant l'arrivée de Charlie Parker. Il fait partie du triumvirat des grands saxophonistes alto avec Johnny Hodges qui est chez Duke Ellington et Benny Carter. On entend d'ailleurs des reflets un petit peu de Johnny Hodges dans ce jeu, comme ça très, très langoureux, assez sexy. C'est avant Charlie Parker, ça. C'est très beau.
Il y a un paradoxe, parce que Nat King Cole va être très populaire dans une Amérique de ségrégation raciale, c'est-à-dire les années 50, les années 60.
Et 40 surtout.
Ouais, 40
et 50. Ouais.
Mais dans les années 50, il est déjà populaire, Nat King Cole.
Il est déjà très populaire, mais dans certaines limites. Par exemple, il est un des tout premiers artistes noirs à avoir son propre show
à la télé.
Et ça dure à peine 3 ou 4 mois parce qu'il y a des annonceurs qui ne veulent pas donner de l'argent parce qu'ils ont peur que leurs annonces soient mal reçues dans certains États du Sud.
Why can't we try again to recapture the past? Don't let love die again. Let it live, let it last. Why can't we put aside our stubborn pride?
Comment il est perçu d'abord par ses pairs, par les musiciens? Comment se fait la popularité de Nat King Cole? C'est ses passages à la radio, c'est le bouche à oreille, c'est les gens qui vont le voir sur scène?
Immense respect de la part de ses pairs et beaucoup de disques vendus. C'est grâce à lui que la maison Capitol, lui puis Sinatra, se développe à partir de seulement eux deux, quoi. On construit la tour Capitol à Los Angeles avec les droits de King Cole, puis de Sinatra à partir de 52.
Sinatra qui sera très proche de Nat King Cole, puisque à un certain moment il va imposer que Nat King Cole dorme dans les mêmes hôtels que les musiciens et les chanteurs blancs, parce que ce n'était pas possible à l'époque, non. À Las Vegas. Hein.
Oui, à Las Vegas, tous les musiciens devaient aller s'installer, les musiciens noirs, allaient s'installer dans les hôtels réservés aux noirs, tout en au nord du Strip. Et c'était absolument écœurant, dans la mesure où, par exemple, certains racistes, vous savez comment ils appelaient la piscine de cet hôtel réservé aux noirs, ils appelaient cette piscine l'encrier. Ouais, l'état d'esprit. Et les musiciens, mais même de l'orchestre de Duke Ellington, au milieu des années 50, quand ils venaient jouer dans les grands hôtels, ils entraient par les entrées de service, passaient à travers la cuisine, et n'avaient pas le droit, pendant les pauses, d'aller dans la salle saluer leurs amis.
Quand Hollywood fera appel à Nat King Cole, parce que Hollywood fera appel à Nat King Cole, et pour tourner dans quelques films, quand Nat King Cole et son épouse s'installent à Los Angeles, ils reçoivent tout de suite une lettre des voisins qui lui rappellent qu'il est un indésirable.
Indésirable dans ce quartier chic. Il leur répond qu'ils regrettent infiniment. C'est peut-être eux qui sont indésirables de venir habiter dans un quartier où habite un noir. Il est têtu et il reste.
Il reste. Nat King Cole va, à un certain moment, s'engager politiquement, bien sûr, avec Martin Luther King, ensuite en soutenant la candidature de Kennedy. Mais est-ce que cet engagement de Nat King Cole, on l'entend dans ses morceaux, on l'entend dans ses chansons, ou est-ce qu'il a séparé d'une manière qui lui paraissait tout à fait normale pour lui, sa carrière artistique et sa carrière de citoyen?
Non, pas du tout.
Pas du tout, c'est-à-dire
qu'il continue à mener son métier en chantant des chansons d'amour. Il continue à faire son métier. C'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une et l'autre. Cette génération de musiciens ne sont pas directement engagés dans la musique comme vont l'être des jazzmen comme Max Roach, etc.
Alors, avant de revenir sur cette période que nous connaissons, c'est-à-dire le Nat King Cole chanteur, le Nat King Cole crooner, ce qui est bien dans le coffret que vous avez réalisé pour bien marquer, parce que vous l'avez réalisé l'année dernière, et là, c'est pour bien marquer le centenaire de sa naissance.
C'était pour le centenaire.
De sa naissance. Alors, on découvre le Nat King Cole pianiste. On écoute un extrait, on en parle. En 1947, Nat King Cole au piano. Alors, à l'origine, c'était sorti en 78 tours, Claude Carrière. Et ce son parfait qu'on retrouve dans tous les morceaux de votre coffret.
Le son des 78 tours était supérieur quelquefois au son des micro-sillons. Le problème, c'était l'usure des 78 tours. Mais à partir du moment où on fait ça avec un disque neuf, on arrive à un résultat comme ça. Puis
vous voulez dire que vous l'avez pas du tout dépoussiéré pour ce coffret ?
Un petit filtrage de la part du studio de la compagnie Crystal, oui, très léger, oui, non. Parce que plus vous filtrez, plus vous coupez les fréquences, notamment les fréquences aiguës, et ça me dérange.
Alors, ce qu'on apprend, c'est que dans votre texte qui accompagne ce coffret, c'est que il préférait quand même être musicien, Nat King Cole, plutôt que le crooner qu'il est devenu.
Il préférait, c'était son vrai métier, c'était pianiste, mais je pense moi qu'il a préféré être crooner quand il a regardé son compte en banque, qui s'est rapidement gonflé, parce que un pianiste n'aurait jamais acheté la maison qu'il avait, sa maison familiale à Hollywood. Mais cela dit, je suis pas dans son cerveau pour savoir si regretter de ne pas être resté purement un pianiste de jazz, parce qu'il avait quand même une assez belle vie de faire les grandes salles. Moi, je l'ai vu à l'Olympia, je l'ai vu une fois en 60.
Donc 5 ans avant sa mort, quoi.
Oui, 2000 personnes sans aucun problème. Il n'avait même pas besoin de faire une annonce, il arrivait et il chantait avec l'orchestre de Quincy Jones, qui était un orchestre qui était à Paris à l'époque, et plus une petite section de violon. Ce qui était amusant et triste en même temps, c'est que le public était partagé. Alors il y avait les puristes dans l'histoire du jazz, et notamment en France, mais c'est un peu partout pareil, enfin un mal terrible. Parce qu'alors on s'accroche à des vraies valeurs. C'est un pianiste, et puis quand il chante, c'est pas vraiment un chanteur de jazz, parce que tu vois, c'est pas à Montauban qu'on a inventé le lexique du jazz. Après tout, il chante comme il chante. Il chante comme il lui plaît de chanter. Alors c'est moins rugueux que certains vrais, entre guillemets, chanteurs de jazz, entre guillemets. Mais bon, voilà, ils swingent, par exemple, largement autant que n'importe quel chanteur. J'ai ce balancement purement jazz qu'il y a dans son chant. Et voilà.
Et puis, il avait du charisme. Hein. C'est une autre manière de dire. Il était beau gosse, Nathalie Cole. Hein.
Il était grand, il était très beau, il était très noir, et certains films... On le voit carrément blanchi d'une façon absolument honteuse. Alors cette voix absolument unique et bouleversante et qui est toujours aussi belle.
Y compris quand il chante en espagnol, parce que c'est un des premiers chanteurs, j'allais dire, de jazz à chanter en espagnol.
Il a eu beaucoup de succès avec les deux ou trois disques qu'il a fait entièrement chantés en espagnol, et en partie enregistrés à Cuba et même à Rio. Je crois qu'il y a deux ou trois morceaux en portugais, je suis pas sûr.
Alors écoutez justement.
Beaucoup de succès avec ça.
Perfidia, c'était en 1958.
Mujer, si puedes tú con Dios hablar. Pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. He buscado donde quiera que
Nat King Cole, la perfidia en 1958. Ça aussi, on l'a dans votre...
Le roi Cole, un espagnol. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des gens qui ne connaissaient que cet aspect de Nat King Cole, c'est amusant. Tess, c'est un chanteur qui, oui, qui chante en espagnol. Je ne savais même pas qu'il joue du piano. Et il a eu beaucoup de popularité avec ses chansons en espagnol. C'est un charme fou, d'ailleurs.
Toutes les carrières de Nat King Cole résumées dans ce beau coffret incomparable. 3 CD, 60 morceaux concoctés par Claude Carrière, mon invité ce matin. Spécialiste de jazz, bien sûr. Journaliste, conférencier. Et puis, à vos heures perdues, vous êtes aussi président d'honneur de l'Académie du Jazz et président de la Maison du Duke.
C'est trop beau un seul homme. Il faut assumer. Oui.
Vous écoutez toujours autant de musique
Claude
Carrière.
Mais j'écoute aussi autant de musique classique.
Ouais.
Je viens ici très souvent écouter les orchestres.
Ici,
aussi souvent.
C'est la maison de la radio.
Ouais. Oui. Aussi souvent que je vais au concert de jazz.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Le coffret Nat King Cole, incomparable, et a été édité par Crystal. Merci Claude Carrière d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci à vous.
Le Réveil Culturel est une émission préparée avec la complicité de Corinne Hamard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique d'Ali Yaha. Bonne journée sur France Culture, on se retrouve demain.